On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Moodstep avec un sujet qui, si vous suivez ce blog depuis longtemps, vous est vraiment très familier. Sinon, on va reposer les bases, nous allons parler de psychologie positive et plus particulièrement des forces avec Safia Larabi. Je suis Johanna Kellen, toujours, opératrice de Turbine à Bonheur, encore, et votre hôte pour ce podcast. On retrouve tout de suite Safia. Bonjour Safia.
Bonjour Johanna.
Nous allons parler de nos forces aujourd'hui.
C'est ça.
Avant de commencer, il est de coutume que l'invité se présente, que tu nous dises un peu d'où tu viens et ce que tu fais.
Ok, ben merci à toi de m'avoir contactée pour cette Moodstep. Je m'appelle Safia et je travaille avec le docteur Ilona Boniwell au sein de Positran dans sa société de conseil et de formation en psychologie positive. Donc moi, à la base, j'ai une formation de juriste. Je suis spécialisée en sciences criminelles. Donc, j'ai fait un grand chemin.
Ah oui, c'est incroyable.
Voilà, j'aime bien les paradoxes et je ne te cacherai pas qu'entre-temps, je me suis formée au cours Florent, donc je suis comédienne. Donc c'est vrai que c'est un parcours assez atypique, mais ce que j'en retiens, c'est que quand j'ai plus pu travailler à résoudre les injustices, je me suis concentrée à comment augmenter son niveau de bien-être et les outils de développement et d'épanouissement.
Et comment t'en es venue à la conclusion que c'était pas résoudre les injustices que tu voulais, mais te concentrer sur le côté, pas obscur de la force, mais lumineux de la force?
Alors ça a été un choix de politique d'État. J'ai présenté le concours de la magistrature lors des réductions budgétaires et je suis arrivée dans les 150 meilleurs juristes de France, mais malheureusement il n'y a eu que 80 postes et je n'étais pas dans la tête de liste. Donc il a fallu que je me retrouve un autre objectif de vie.
Ah carrément, parce que quand tu as fait des études de droit donc.
Voilà.
Et tu t'es pas dit avec toutes les études de droit que j'ai fait, je vais continuer mais dans une autre branche du droit
Malheureusement, j'avais fait beaucoup de stages en cabinet d'avocat et je peux confirmer que ce n'est pas ma force. C'est vraiment pas pour moi et je voulais vraiment être magistrate.
Et comment t'as découvert la... Comment t'en es venue à la psychologie positive et à tout ce qui touche à la connaissance de soi?
Voilà, et bien justement, après ça, ça a été quand même assez terrible pour moi. Il a fallu que je retrouve un parcours qui m'intéresse, dans lequel je me retrouve, changer d'orientation. Et j'ai rencontré à ce moment-là la Fabrique Spinoza, donc le think tank du bien-être. Et j'ai découvert mes premiers pas en psychologie positive.
Dans ces trois axes de ton parcours, est-ce qu'il y a un lien commun? Comment ça se fait que tu sois sur des choses aussi différentes?
Alors oui, il y a un lien. D'abord, j'ai toujours fait du théâtre depuis toute petite et ça me manquait lors de ma maîtrise en carrière judiciaire. J'ai réalisé que je ne faisais que du droit et je me sentais coupée d'une partie importante de moi, donc une part de mes forces qui n'était pas exploitée. Et je suis rentrée au cours Florent avec des sociétaires à la Comédie Française. J'ai fait tout le parcours et à la fin de ça, j'ai mis en scène Les Justes de Camus et j'ai réalisé que la magistrature était quelque chose d'important pour moi. Et seulement, je ne pensais pas avoir assez confiance en moi et les cours Florent m'ont permis d'atteindre ce résultat et je me suis présentée à un concours national.
Tu continues le théâtre aujourd'hui ?
En partie seulement. En partie autrement en réalité. J'anime, je suis en train de créer, j'en ai déjà animé quelques-uns, des dîners du bonheur dans lesquels je fais des soirées thématiques avec des jeux et des quiz. Donc c'est entre le show et la théorie, c'est assez sympathique. Et puis sinon plus des lectures publiques. Mais un nouveau projet peut toujours être en cours.
C'est marrant parce que les dîners du bonheur, c'est le fondateur de la Fabrique Spinoza avait commencé avec ça. Il faisait des dîners du bonheur avant d'avoir créé la Fabrique Spinoza. Il y a un lien, il t'en a parlé ou tu étais au courant?
Oui, j'étais au courant. Ah. Je me suis retrouvée à Montréal pendant une année et j'ai écrit un e-book et j'ai fait une chronique radio sur les chroniques du bonheur. Et effectivement, je souhaitais rendre hommage aux personnes qui ont été importantes pour moi dans cette connaissance de soi et de travail sur ses forces. Et j'ai trouvé que les dîners du bonheur étaient une idée intéressante, que j'ai innové là-bas et ça a beaucoup plu. Donc j'étais beaucoup en relation aussi avec des artistes, donc c'est un mélange. Et ça s'est fait comme ça. Et il y a d'autres personnes qui ont été intéressées. Et puis, il y a comme une petite chaîne qui est en train de se construire. C'est très drôle.
Alors, peut-être qu'on va commencer sur notre sujet des forces. C'est un thème important dans la psychologie positive. Peut-être que pour certains auditeurs, on pourrait resituer ce qu'est la psychologie positive, puisque
Oui,
ça s'inscrit là-dedans, on est d'accord.
c'est ça, tout à
Ouais.
fait. Donc, la psychologie positive est une science qui étudie ce qui rend la vie digne d'être vécue. Donc, ce n'est pas la pensée positive, c'est vraiment une science avec tout le socle de connaissances et de recherches que ça suppose et qui travaille sur les outils du fonctionnement optimal pour les individus, les sociétés et les communautés.
Et pourquoi tu as voulu parler de ce thème des forces? Qu'est-ce qu'il représente pour toi?
Eh bien, ça me semble très intéressant parce que beaucoup de personnes ignorent quelles sont leurs forces. Et c'est la chose la plus simple qu'on puisse faire pour obtenir le plus grand potentiel de développement. Donc, c'est vraiment la chose la plus utile et la plus accessible et avec des résultats les plus immédiats. Donc, c'est mon outil préféré.
Donc tu as fait ce constat comment que les gens ne connaissaient pas leurs forces?
Ah, c'est des sondages qui ont été faits, j'ai plus le dernier en tête, mais ils ont réalisé que 71%, je crois, des Français ne savaient pas identifier leurs forces. Donc c'était vraiment un chiffre assez élevé. Et quand je fais des formations, des ateliers sur les forces, au début de l'atelier, les gens ne savent pas identifier leurs forces. Ou alors ils en ont, mais ils ne savent pas que
D'accord.
c'en est.
Et tu crois que cette lacune, elle est due à quoi?
C'est principalement le fait qu'on est habitué à parler de ses faiblesses en premier lieu. On n'ose pas s'avantager là où c'est facile. On ne veut pas paraître prétentieux. C'est aussi le poids, bien sûr, culturel. Mais le rapport entre force et faiblesse est vraiment intéressant parce que si on demande aux gens justement quel est, où réside ton plus fort potentiel de développement? Est-ce que c'est dans le fait de travailler ses faiblesses ou de travailler ses forces? Eh bien, là encore, la grande majorité pense que c'est en travaillant ses faiblesses.
Alors que toi, tu dirais le contraire? Et si tu dis le contraire, pourquoi? Quoi?
Oui, c'est effectivement en travaillant ses forces qu'on obtient le meilleur de soi. Pour s'en rendre compte, on peut faire un parallèle avec la confiance. Quand on n'a pas confiance en soi, eh bien, c'est pas en travaillant ces aires de lacune qu'on peut gagner en assurance. Eh bien, c'est exactement pareil pour les forces. En travaillant ses faiblesses, on met plus de temps parce qu'on est moins animé par ça, alors que travailler ses forces nous donne plus de perspectives dans nos vies. C'est plus facile, on y arrive plus immédiatement. On a plus de plaisir, ça nous donne plus d'énergie, c'est vraiment quelque chose qu'on fait naturellement en fait, c'est ça, c'est authentique.
On parle de force, on parle de qualité, de talent, de valeur. Est-ce que tu fais une différence entre tout ça ou tout ça c'est la même chose?
Ah ben non.
Alors peut-être qu'il faudrait
Alors
qu'on
là.
définisse ce qu'est une force pour la différencier d'une qualité ou d'un talent par exemple.
Oui, alors moi. Déjà, j'aime bien le mot talent parce que je suis comédienne à la base. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ce qui m'avait menée au théâtre, finalement, c'était la compréhension de l'humain. Qu'est-ce qui nous meut, qu'est-ce qu'il pense, comment il ressent. Et je pense qu'on a tous des talents, mais le problème avec le mot talent ou don ou qualité, c'est que on considère que c'est inné, que c'est réservé à quelques heureux élus. Alors qu'en fait, on est tous talentueux quelque part. C'est Malraux qui disait que l'art, c'est de faire connaître aux hommes la grandeur qu'ils ont en eux et qu'ils ignorent. Et bien, je pense que c'est une très belle citation pour les forces, parce que c'est exactement ça, faire connaître aux gens les forces qu'ils ont en eux et dont ils n'ont pas forcément connaissance. Et une force, contrairement au talent, on en a tous. C'est pas réservé à quelques-uns seulement.
Mais du coup, alors, voilà, comment je reconnais une force par rapport à une qualité ou comment je les distingue?
Eh bien, une force, ça répond à des caractéristiques précises qu'on peut résumer en trois axes, à savoir, la première, c'est est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je fais ça naturellement? Est-ce que j'ai du plaisir à le faire? Est-ce que j'aime m'en servir? Est-ce que ça me donne de l'énergie? Donc, les trois composantes, c'est il faut que ce soit authentique. que ça corresponde vraiment à qui je suis. Ensuite, il faut qu'elle me donne de l'énergie, que ça me dynamise, que j'ai de l'enthousiasme à pouvoir la faire. Et ensuite, c'est un vecteur de performance. Donc, je suis bon quand je fais ça, les gens me reconnaissent comme telle, j'apprends facilement, c'est facile, il n'y a pas autant d'efforts que pour le talent qui serait acquis et qu'on ne pourrait pas changer, qu'on ne pourrait pas
D'accord.
travailler.
Alors, comment je fais pour reconnaître ou découvrir mes forces?
Alors ça, c'est
Ha
très intéressant. Alors, il y a plein de possibilités pour travailler sur la découverte de ses forces. D'abord, il existe des tests. Hein. Donc, Martin Seligman, donc, je ne sais plus si on en a parlé tout à l'heure, qui est à l'origine de la psychologie positive, a créé le test VIA, Valeurs en action, qui est donc disponible gratuitement sur Internet et qui permet de répertorier les forces en 6 vertus et 24 forces. Donc en fait, il a créé tout un diagnostic de force, de potentiel, qui fait le pendant en fait de tout ce qui existait pour la psychologie, à savoir comment on répertorie les troubles mentaux et les signes de pathologie. Et là, ce sont donc 24 forces qui sont répertoriées afin de pouvoir les identifier.
Ok. Et donc, si je fais ce test, que j'ai fait d'ailleurs plusieurs fois, ce test te donne tes grandes forces, et notamment ce qui est intéressant, c'est aussi voir celles qui sont complètement en bas, peut-être qui ne sont pas utilisées. Mais comment tu utilises les résultats de ce test? J'ai regardé un peu des commentaires sur des sites qui conseillaient de faire ce test, et j'ai remarqué que beaucoup de commentaires étaient, bon, et maintenant que je sais que mes trois grandes forces sont ça, qu'est-ce que j'en fais?
Ouais, là, on est plus dans le développement de ces forces et leur utilisation, qui est tout aussi important que savoir les découvrir. Et bien, sur ce point, pour continuer encore un petit peu seulement sur
Oui.
la découverte, c'est qu'il faut savoir que ce test VIA date des années 1998, 2004, il me semble, en 2004. Donc, c'est quand même, ça date maintenant. Et depuis, il y a d'autres tests qui ont été conçus. Et mon préféré, c'est R2, Realize 2, qui est fait par le centre CAP. Et donc, cette fois, il y a 60 forces qui sont répertoriées. Donc, il y en a un petit peu davantage. Et effectivement, il propose un modèle un peu plus construit ou un peu plus parlant immédiatement aux gens qui ne sont pas habitués, dans la mesure où il répertorie les forces selon 4 R de couleur. Donc, d'un côté, on a effectivement nos faiblesses. Il y a trois faiblesses qui sont répertoriées. D'un côté, on a les compétences, d'un autre, on a nos forces, et de l'autre, en face, on a les forces que l'on a mais qu'on n'a pas réalisées. Donc, on a un cadran comme ça qui nous permet d'avoir une visualisation plus complète de notre potentiel et de notre diagramme de force.
Excuse-moi, quand tu dis pas réaliser, c'est-à-dire qu'on n'en a pas pris conscience ou qu'on les a pas mises en action?
Les deux.
D'accord, ok.
Ouais, c'est exactement ça, les deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne un manuel d'emploi en quelque sorte. L'important avec les forces réalisées, ce sont de les utiliser. Avec les forces non réalisées, ce sont justement de les porter à la confiance, à la conscience et de les maximiser, de leur donner jour finalement, de les utiliser davantage. Les
D'accord.
faiblesses sont à minimiser et les compétences sont, elles, à modérer.
À modérer, pourquoi?
À modérer, oui. On a défini tout à l'heure les forces par opposition au talent, mais pas par rapport aux compétences. Et c'est également important parce que une compétence est quelque chose qu'on a appris à bien faire. Donc c'est une compétence acquise, alors que la force est quant à elle beaucoup plus innée. Et il s'agit de les modérer parce que c'est quelque chose qu'on a appris à faire et qu'on fait bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on en tire du plaisir et de l'énergie. Donc à terme, ça peut mener au burn-out, contrairement à une force qu'on fait avec plaisir et qui nous donne plus d'énergie, alors que la compétence peut nous épuiser.
D'accord. Et tu utilises, donc ça c'est un test que tu privilégierais, mais et tu utilises d'autres manières sans passer par les tests pour identifier des forces?
Oui, bien sûr. Les tests sont intéressants parce qu'ils nous donnent un visuel assez immédiat et on a l'aval scientifique, mais effectivement, on a le jeu de cartes des forces qui a été créé par le docteur Ilona Boniwell et qui est disponible sur son site. Et ce jeu-là est très intéressant parce que c'est un jeu de cartes. Sur chacune d'entre elles, il y a une image très intéressante, un visuel assez sympathique avec le nom d'une force.
J'ai les cartes, faut que tu saches.
Exactement.
Donc je vois très bien de quoi tu parles. Oui, donc ok.
Voilà. Et donc on a devant soi, donc on les tape sur la table et on a devant soi donc 52 forces qui sont immédiatement visibles. Et le premier choc dans les ateliers, c'est de regarder ces cartes et de voir celles qui nous interpellent le plus. Parce que les gens sont étonnés déjà de voir qu'on peut avoir un panel de 52 forces et c'est pas forcément évident de savoir lesquelles nous correspondent, lesquelles on a ou pas. Et donc déjà prendre connaissance qu'il en existe autant, c'est toujours révélateur. Ensuite, on peut se poser des questions simples, à savoir de commencer par choisir une, deux ou trois forces et de trouver un exemple d'une situation ou d'une expérience qu'on aurait vécue et qui aurait manifesté l'exemple concret de l'utilisation de ces forces, de cette force-là, cette carte précise. Et c'est toujours très intéressant parce qu'on voit, donc on fait cet exercice en groupe et on voit que les gens sont animés par les forces. Ils ne savent pas les identifier, mais dès qu'ils commencent à raconter une histoire forte, à raconter une expérience, à se plonger dans un vécu, alors tout d'un coup, ils s'allument. Et c'est très frappant quand on fait ça dans un groupe d'une quinzaine de personnes. Ça devient une surenchère de force.
Ok, donc voilà une technique avec les cartes de force. T'en vois d'autres ou pas?
Comment
Comment
découvrir ses forces,
découvrir
identifier
ses...
ses
Ouais, comment
forces?
identifier ses forces?
Déjà, avec les différents tests, l'usage des cartes de force. Ce qui est intéressant également, c'est qu'une fois qu'on a identifié une force, c'est de pouvoir l'utiliser d'une manière différente.
C'est-à-dire, aurais-tu un exemple concret?
Oui, alors on pourrait partir d'une force, par exemple la force de bon, la force de créativité, c'est trop facile parce qu'on peut être créatif de plein de façons différentes. Mais si ma force c'est la soif de l'apprentissage, je peux apprendre un code, me plonger dans un système juridique bien défini assez facilement, mais ça ne veut pas dire que je suis cantonnée à la phase juriste. Je peux très bien utiliser cette force et décider d'apprendre un autre domaine totalement autre comme la psychologie positive.
C'est marrant,
Voilà.
ça me rappelle quelqu'un, c'est bizarre.
Mais on peut effectivement aussi utiliser ça dans le niveau relationnel. Et c'est aussi finalement peut-être ce qui m'a intéressée dans le théâtre, c'est d'utiliser toutes les situations possibles de vie dans chaque scène de théâtre, chaque pièce, chaque situation. C'était finalement apprendre autrement comment la personne se meut, quel est son objectif, quelle est sa motivation, que ressent-elle à ce moment-là. Donc
Tu
finalement,
dirais
c'était...
que c'est le plus grand apprentissage que tu as eu pour toi personnellement de faire ce travail avec les forces, c'est ce que tu as compris, ça t'a permis de déchiffrer un peu ton parcours?
Je pense que la psychologie aide à déchiffrer son parcours, la psychologie positive notamment. Quant à l'emploi des forces, je dirais que quand j'ai découvert cette théorie, j'étais dans une situation de faiblesse. Et du coup, ça a été pour moi révolutionnaire, effectivement, de réaliser qu'on avait des forces, que j'avais des forces, que j'en avais plusieurs, et qu'on pouvait les augmenter, les utiliser davantage, les développer, et accroître ainsi son niveau de satisfaction et de bien-être. Réaliser que je n'étais pas seulement juriste à l'heure où je ne pouvais plus en faire mon métier, ça m'a permis de rebondir et de trouver ce que je voulais vraiment faire et de trouver les forces qui étaient en moi et de finalement m'aligner avec avec la personne que je suis vraiment. Donc, tout à l'heure, on parlait de talent, et finalement, ben, le vrai talent, c'est d'être soi, d'être authentique et de trouver et exploiter ses forces.
Et du coup, je me demande si donc une force, une fois que tu as fait ce travail de découverte de tes forces, c'est fixe ou c'est quelque chose de dynamique qui évolue?
C'est quelque chose qui évolue effectivement. Et d'ailleurs, si tu dis, tu as dit que tu as fait le test via plusieurs reprises.
Oui, j'ai pas eu les mêmes résultats.
Et voilà, ça évolue avec le temps, tout simplement parce que la personne évolue. Les expériences la modèlent autrement et du coup, les forces qui sont mises en avant ne sont pas forcément les mêmes. Et on peut parfois changer de personnalité selon les épreuves de vie, mais il reste un socle assez fondamental des forces qui caractérisent une personne, on va dire, dans les principales.
Donc, une fois que tu as fait ce travail, on peut s'y remettre, re-explorer. Comment on se sert de ses forces au quotidien? Parce que là, on a parlé de comment ça te permet de regarder aussi ton parcours, de comprendre ton parcours, mais comment ce travail peut nous permettre de se mettre en action dans notre quotidien?
Eh bien, il existe des exercices tout simples. Par exemple, une fois quand on a identifié certaines forces, on pourrait décider, tiens, bah, aujourd'hui, je vais me concentrer sur une force et chercher à l'utiliser de manière différente, le plus possible, dans les différentes situations. On peut décider aussi, pourquoi pas, de se créer la journée idéale avec l'emploi de toutes ces forces. Quelles seraient tes forces principales et comment est-ce que tu voudrais les mettre en œuvre? Dessiner un personnage type ou une composition avec ce best-of de ces forces. L'important, c'est vraiment de comprendre qu'il faut utiliser ces forces et plus tu les utilises de manière différente et diversifiée, et plus ça devient facile et revigorant. C'est ça.
Mais du coup, si on a fait des choix, voilà, on n'avait pas conscience de ses forces, on a fait des choix, on est dans un métier qui, quelque part, ne nous permet pas de les utiliser pleinement. Est-ce que tu as vu ou est-ce que ça amène à des remises en question ou des changements de vie, de choix de vie?
C'est possible, oui, c'est possible. En ce moment, je suis en train de travailler également à un recueil, je viens juste d'initier, un recueil d'histoires fortes. Parce que quand on reconsidère sa vie au niveau des forces, on voit effectivement les changements et parfois c'est un électrochoc parce qu'on est dans la phase de changement et on voit qu'effectivement, pour s'aligner avec ses forces, il faut faire autre chose. Il y avait par exemple une histoire qui m'avait marquée, c'était un pianiste qui jouait sur commande d'un café-restaurant et jouer du classique. Et finalement, c'était pas du tout son genre, c'était pas son style, c'était pas sa force. Et un jour, il y a une jeune femme qui se pend à ses bras et qui lui dit « Joue-nous quelque chose de moins soporifique, joue-nous quelque chose que tu aimes. » Et le pianiste s'est mis à jouer ce qu'il aimait. Et au fur et à mesure des morceaux, les gens étaient plus attentifs, ils applaudissaient, et finalement, il s'est avéré que c'était un virtuose du jazz. C'est voilà, joue ce que tu aimes et tu t'animeras et tu animeras la salle. Et je crois qu'aujourd'hui, cet endroit est devenu une salle de concert. Je ne me souviens plus exactement laquelle, mais c'est une belle histoire.
Ouais, parce que des fois on veut tellement rentrer dans ce
Dans un
que
moule, oui.
voilà, ce qu'on attend de nous, qu'on oublie de vraiment s'écouter soi. Et qu'en fin de compte, en identifiant nos forces et en les exprimant, c'est là qu'on est encore le mieux reçu par ceux dont on essayait d'avoir l'approbation, quoi. Donc
Exactement.
c'est étonnant. Est-ce que tu
Ouais.
veux rajouter quelque chose d'important sur ce sujet qu'on n'aurait pas traité?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les forces et on peut les utiliser aussi également au niveau de l'éducation, mais au niveau aussi managérial pour tout ce qui est l'entreprise, au niveau du recrutement ou de la construction d'équipe. Il peut y avoir des partenariats en fonction au sein d'une équipe, essayer de pallier les faiblesses des uns avec les forces des autres. Donc, il y a toute une organisation qui est soulevée par les forces.
Ok, donc nous enchaînons avec le questionnaire qui est commun à toutes les interviews, avec la première question qui est: quelle est la meilleure erreur que tu aies faite dans ta carrière et quelles leçons en as-tu tirées?
Eh bien, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je suis extrêmement heureuse de ne pas être magistrate spécialisée en sciences criminelles. J'aurais fait sûrement un très bon juge d'application des peines. Mais finalement, j'ai réalisé après coup, donc j'ai passé quand même 4 ans à préparer ce concours à un niveau assez soutenu. Et finalement, ce que j'ai considéré comme la pire erreur et le pire échec de ma vie, c'est avéré une réelle opportunité de s'épanouir, de faire quelque chose en relation avec les gens, de leur apporter du bien-être, d'apprendre quelque chose qui m'intéresse et qui stimule et qui nourrit l'équation positive, à savoir le fonctionnement optimal des individus et des organisations. Et j'ai découvert un outil qui peut être intéressant dans ce processus d'identification des erreurs et de l'apprentissage. Et c'est la théorie de Carol Dweck sur Mindset, donc sur l'état d'esprit. Je ne sais pas si tu connais cette...
J'ai pas lu son livre, j'ai vu passer, mais je ne l'ai pas lu.
D'accord, mais brièvement, selon elle, l'état d'esprit qui soutient le succès, c'est le sous-texte, c'est-à-dire les croyances que l'on porte sur soi. Mmh. Est-ce que l'on pense que nos facultés sont figées ou est-ce qu'on pense qu'au contraire, on peut les développer? C'est un peu ce qu'on disait aussi sur les talents et sur les forces. Est-ce que, voilà. Et donc, elle parle d'état d'esprit fixe ou figé ou bien à développer. Et c'est intéressant parce que ça conditionne complètement la personne et les situations parce que finalement, on apprend de l'échec comme de toute autre expérience. L'échec, finalement, c'est seulement quelque chose qui est là pour nous dire que ça ne marche pas. Il faut résoudre le problème et puis on passe à autre chose.
Et tu as compris du coup ce que tu cherchais, pourquoi tu allais après cette carrière qui a pris, avec le recul, tu as l'air de dire ne te correspondait pas. Comment ça se fait que tu poursuivais une carrière qui ne te correspondait pas ?
Parce qu'en réalité, ça me correspondait. J'étais une très bonne juriste. J'étais capable de comprendre et d'expliquer un cadre juridique assez facilement et assez rapidement. Sauf que c'était pour moi une compétence acquise. C'était quelque chose que j'avais appris à faire et que je faisais bien. Mais est-ce que ça me donnait de l'énergie ? Est-ce que j'étais passionnée par le faire ? Est-ce que vraiment j'aurais pu être heureuse au quotidien ? J'étais spécialisée en sciences criminelles, donc c'est quand même un domaine assez particulier. Et j'en suis pas certaine aujourd'hui. J'étais extrêmement déçue, mais aujourd'hui je me rends compte que, voilà, travailler au quotidien avec une matière aussi difficile, je sais pas si psychologiquement j'aurais pu le supporter.
Passe à la deuxième question, comme ça, de but en blanc. Quelle technique ou outil t'a le plus fait avancer personnellement ou professionnellement ? Tu n'as pas le droit de dire les forces. Attention.
Effectivement, les forces, c'est un outil important. L'état d'esprit de Carol Dweck est un outil autrement important, mais je peux dire sinon que ce qu'on appelle la roue du bonheur ou le gâteau du bonheur est un des apprentissages les premiers que j'ai effectués. Dans ma formation sur la psychologie positive et qui a été vraiment essentiel pour moi, c'est donc Sonia Lubomirski qui nous explique que si le bonheur était un gâteau, il y aurait 50% qui proviendrait de nos gènes, de notre héritage génétique, mmh. 10% et 10% seulement qui correspondent à notre condition de vie, donc quel est notre métier, notre situation sociale, familiale, ce que l'on fait, enfin les contingences. Et les 40% restants, ce sont les perspectives, les activités intentionnelles que je choisis de faire. Donc finalement, on réalise qu'on a 40%, donc c'est presque la moitié du gâteau, qui est un pouvoir d'action. Donc ça a été pour moi une révolution de savoir que je pouvais mettre en place des stratégies positives afin d'améliorer mon bien-être et que ça avait un poids considérable, beaucoup plus qu'un changement de condition de vie.
C'est marrant parce que j'ai lu le livre de Sonia il y a quelques années maintenant, il y a bien longtemps même, puisque c'était avant la création de Moodstep et de Happy Lab. Donc, et après, j'ai eu une expérience professionnelle à la télé qui a été que j'ai trouvé assez terrible. Et je me suis retrouvée, moi qui avais déjà pas mal potassé sur le bonheur, à être sous l'eau, ne plus pouvoir finir mes phrases, ne plus réussir à écouter les gens. J'étais fatiguée émotionnellement. Et j'ai repensé à ce camembert et je me suis dit, en fait, je l'avais mal compris. Parce que c'est 10% de l'environnement. Oui, ce camembert, c'est comment ça participe à ton bonheur. Mais ces 10%, tout d'un coup, mon environnement était devenu tellement toxique pour moi qu'il faisait quand même 90% de mon malheur. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est que j'avais vraiment pas compris... j'avais pas compris ce camembert, donc je me permets d'amener ma petite histoire parce que je me suis dit, en fait, ces 10%-là, si tu es dans un environnement toxique, si tu es avec des gens toxiques, je sais pas, violents, ou si tu es dans un environnement de guerre, je pense que l'environnement reste quelque chose d'extrêmement important. Alors après, on fait des choix pour être dans tel ou tel environnement, mais des fois, on n'a pas le choix. Et je me disais qu'il pouvait devenir aussi un peu culpabilisant, ce camembert, en se disant, mais pourtant... ce n'est que 10%.
Oui, mais tout se conjugue. Il n'y a pas que ces 10%. Il s'avère qu'effectivement, quand on est dans un environnement à couleur toxique, il est extrêmement difficile de s'en dépêtre. Et qu'on a beau croire qu'on peut gérer la situation, les recherches démontrent qu'en réalité, ça nous consume et ça prend plus de place. Ce n'est pas que les 10%, parce que ça atteint aussi sur les 40% d'action. Parce qu'en restant et en acceptant je ne sais pas ce que tu as vécu, mais ce que je voulais dire, c'était qu'il faut... Mais qu'est-ce que je peux mettre en place de ces 40% pour pouvoir changer mon environnement toxique en quelque chose qui soit plus supportable? Quelle action est-ce que je peux mettre en œuvre? Donc en fait, il n'y a pas que ces 10%-là, c'est vraiment terrible. L'environnement joue un poids aussi important, mais il faut réinvestir les stratégies qui peuvent être mises en place pour pouvoir impacter.
Ouais, mais tu vois, dans mon cas, moi, j'avais le choix, c'est-à-dire que j'ai démissionné ou j'ai changé d'environnement. Et je me dis qu'il y a plein de gens, et je pense aux gens en Syrie notamment, en ce moment, où tu as très peu de pouvoir d'action. Alors, je pense qu'après, il suffit de voir des gens dans le même environnement pour voir qu'il y en a qui vont avoir des techniques et qui vont être plus joviale que d'autres malgré l'environnement. Et j'ai interviewé aussi une femme sur les camps de la mort et on voit bien qu'ils avaient tous des réactions très différentes qui pouvaient vraiment aller du haut au bas de l'échelle en termes de se sentir impuissant, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir ces gens résilients qui arrivent malgré leur environnement à fleurir malgré tout, c'est fou. Mais voilà, c'était juste une petite... Je passe à la question d'après, parce que je ne suis pas là pour raconter ma vie. C'était
oui, je veux juste préciser que j'ignore... ça m'étonnerait quand même que je ne me souviens plus si l'étude de Sonia Lubomirski portait sur les cas spéciaux comme la Syrie ou les... Je pense qu'il devrait y avoir un camembert autre pour tout ce qui est les expériences traumatisantes sur la résilience et la croissance post-traumatique. C'est peut-être pas les mêmes 10%, tu vois.
Mais sans aller en Syrie, je pense qu'un peu partout autour de nous, dans les familles autour de nous, il y a des gens qui sont en grande souffrance et qui se sentent impuissants. Et je sais pas s'ils ont conscience de ce qu'ils peuvent faire pour changer leur environnement. Et des fois, ils n'en ont même pas la possibilité, quoi. Donc c'était juste... voilà.
Je suis consciente.
Question suivante. Alors, quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Eh bien, la qualité la plus essentielle serait pour moi la conscience de soi et l'ouverture à l'autre et à l'expérience. Parce que la compréhension de la psychologie positive et de la variété d'outils qu'elle offre m'a montré qu'il était tout aussi important de de se connaître soi et de d'abord avant de pouvoir gérer les relations avec les autres, et que c'est tout aussi important que de pouvoir étudier les atteintes d'objectifs sur la motivation. D'ailleurs, motivation, étymologiquement, c'est qu'est-ce qui me met en mouvement? Et donc, ça commence aussi par savoir qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont mes forces, quel est mon état d'esprit. Ça commence vraiment par la conscience de soi, la compréhension de sa propre psychologie, manière de fonctionnement et de pouvoir effectivement agir dessus.
Question suivante. Quel livre conseillerais-tu à la lecture? Alors, un livre qui, toi, t'a impacté, notamment dans la compréhension de toi ou de l'être humain.
Eh bien, je conseillerais celui de Carol Dweck, justement, qui s'intitule « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite », parce que c'est vraiment important de réaliser que l'état d'esprit dans lequel on est conditionne notre performance.
Et on va finir avec une citation qui, voilà, qui pourrait, qui t'inspire.
Eh bien, j'aime beaucoup une citation de Louis Jouvet, qui était dans son livre « Écoute, mon ami », qui dit « Tout est en toi d'avance, il s'agit de ne pas te perdre ».
C'est bien une citation pour une actrice
ouais.
de Louis Jouvet.
Mais j'ai la même avec un psychologue positif, Alex Linet, qui nous dit qu'utiliser ses forces est la plus petite chose que l'on puisse faire pour faire la plus grande différence.
Oui, c'est bien, ça correspond à ton parcours.
Voilà, comme ouais, ça on a l'aval.
C'est bicéphale. Des deux. Merci beaucoup, Safia. Je mettrai dans la description de ce podcast sur iTunes et sur le blog Moodstep. Le livre que tu viens de citer et ta citation, ainsi que ta biographie ton message. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut rentrer en contact avec toi?
Eh bien, on peut me contacter sur... Il faut que je donne mes coordonnées ou...
non, est-ce que tu as un site internet ou des réseaux
ah
sociaux?
Oui,
c'est quoi le mode préférentiel pour te contacter?
Eh bien, j'ai effectivement un site internet qui reprend mes chroniques radio diffusées à Montréal, qui s'appelle « L'art d'être heureux ». Donc, je peux te transmettre le lien. Et puis sinon, on peut me joindre via la société de Positron.
Positron avec
oui.
Ilona Boniwell.
C'est ça.
Eh bien, merci beaucoup, Safia,
c'est
pour cette
moi,
exploration
merci.
Des forces. Que la force soit avec vous, que la force soit avec toi, Safia.
C'est ça. Merci beaucoup.
Et nous, on a rendez-vous mercredi prochain avec un chef d'entreprise aventurier, mais je ne vous en dis pas plus. Si ce podcast vous plaît, vous fait du bien, vous aide, s'il vous plaît, allez noter ou mettre un commentaire sur la page iTunes du podcast. Ça m'aide en fait à le rendre plus visible et ça facilite mon travail, donc merci à ceux qui feront ce pas et prendront le temps de le faire. Et ben, je vous dis passez une excellente semaine et on se retrouve mercredi. Au revoir.